autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, amis auditeurs, pour nous interroger dans cette rediffusion estivale sur le rôle essentiel des émotions et des sentiments dans la construction de notre humanité, mais aussi dans l'évolution du vivant en général. Pourquoi les émotions sont-elles à l'origine de la vie et de la force irrépressible du vivant? Pourquoi les sentiments sont la condition et le moteur de notre humanité, de l'émergence de l'esprit et de la fabrique de la culture? Autant de questions ouvertes par le célèbre neuroscientifique Antonio Damasio, grand empêcheur de raisonner en rond, pionnier de la recherche et des découvertes sur le cerveau et le corps des émotions, auteur d'ouvrages traduits dans le monde entier, après l'erreur de Descartes et Spinoza avait raison, son dernier essai, L'ordre étrange des choses, aux éditions Odile Jacob, bouleverse une fois encore nos habitudes de pensée. Nous vous proposons de réécouter l'entretien que nous avait accordé Antonio Damasio lors de son passage à Paris en novembre dernier, autour de la question « Pourquoi les émotions sont à l'origine même de la vie ?» Bienvenue. Bonjour Antonio Damasio.
Bonjour.
Vous êtes professeur de neurosciences, de neurologie, de psychologie et de philosophie. Vous dirigez le Brain and Creative Institute à l'Université de Californie du Sud, à Los Angeles, mondialement reconnu pour vos recherches et vos découvertes sur le cerveau des émotions. Vous êtes aussi, Antonio Damasio, un auteur à succès d'ouvrages traduits dans une trentaine de langues. On peut citer L'erreur de Descartes et Spinoza avait raison, ou encore L'autre moi-même. Vous venez de publier aux éditions Odile Jacob, L'ordre est étrange des choses, on reviendra sur le titre, mais dans cet ouvrage vous développez une thèse particulièrement originale, les émotions, selon vous, Antonio Damasio, sont à l'origine même de la vie, déjà enracinées dans les organismes les plus anciens. Comment vous est venue cette idée? C'est la suite de vos recherches sur le cerveau?
Oui, c'est la suite des recherches, mais aussi de savoir que les gens, par exemple, qui travaillent avec des bactéries ou qui travaillent avec des insectes sociaux, qu'ils ont trouvé des choses qui changent beaucoup notre idée de comment la vie a commencé. Et surtout change cette idée que normalement nous avons que toutes les choses que nous faisons très bien dans notre vie humaine, comme par exemple créer des cultures, créer des arts, comme la musique ou la peinture, la gouvernance, les systèmes moraux, la science, la technologie, on a l'impression que toute cette organisation a comme racine l'esprit humain. Et aussi qui a comme racine les raisonnements, les connaissances, la logique. Mais c'est très rare que les gens font appel à quelque chose d'autre, qui sont les émotions et les sentiments qui nous permettent de connaître ces émotions. Et alors, la thèse principale du livre, c'est que, en effet, les motivateurs des inventions culturelles étaient les émotions quand elles sont perçues comme sentiments. Et les sentiments sont alors les motivateurs et aussi ils sont les arbitres parce que pour décider si quelque chose que nous faisons, quelque chose de culturel comme par exemple un objet d'art ou une règle morale, pour décider si ça marche ou non dans l'espace social, il faut aussi avoir des sentiments. Ce sont les sentiments qui vont permettre aux gens de décider que quelque chose est bien, que quelque chose est avantageux pour la vie, ou non, que cette chose ne marche pas, et alors on va l'exclure, on va faire ce qu'on appelle sélection culturelle. Alors cette idée, c'est très central au livre, mais l'autre idée, vous avez déjà fait référence à ça, c'est l'idée d'une ordre étrange. Qu'est-ce que je veux dire avec ça?
Oui, l'ordre étrange des choses.
L'ordre étrange des choses. C'est l'ordre étrange, ce n'est pas exactement bizarre, mais c'est étrange. Nous, normalement, quand nous pensions à des stratégies culturelles comme coopération entre des gens ou conflit entre des gens ou l'émotivité qui nous permet de réagir avec de la peur, par exemple, ou de réagir avec compassion. Normalement, nous pensions que c'est des stratégies qui viennent de l'humain, ou au moins des stratégies qui viennent de créatures très compliquées, avec un système nerveux, évidemment, et avec un esprit. Mais le fait, ce n'est pas vrai. Le fait qu'on peut constater, c'est que même les bactéries qui sont des êtres...
Elles ont des émotions, bactéries ?
Oui.
On peut presque dire
elles
ça ?
Ont, pas presque.
On peut dire ça.
On peut dire ça, parce que...
On a du mal quand même, hein, on préférait que ça nous soit réservé à nous, oui, ou aux grands mammifères.
Oui, il y a toute cette idée de l'exceptionnalisme de l'humain. Alors, je suis absolument pour le fait que nous sommes êtres spéciaux, mais on peut trouver des raisons de notre état d'exception. Il ne faut pas retirer les bonnes choses des bactéries. Alors, je vous dis que les bactéries ont déjà des stratégies de coopération, ont déjà des stratégies de conflit, et elles sont même capables de décider sans le savoir, sans le penser, sans le décider, qu'il y a des choses qui marchent bien pour la communauté ou qui marchent mal.
C'est-à-dire qu'au fond, ce que vous renversez, vous avez déjà renversé, vous avez dit la raison n'est pas première, au fond, ce sont les émotions qui sont premières.
Absolument pas. La raison vient après. Et la raison peut seulement, la raison que nous connaissons peut seulement arriver après que les organismes ont un système nerveux, et après que ce système nerveux peut créer des images et construire l'esprit dans le sang très humain, très direct, que nous avons dans notre expérience mentale.
Antonio Damasio, vous avez donc révolutionné avec le cerveau des émotions ce qu'on croyait savoir sur la raison, et vous continuez autour de la question des émotions. Vos recherches ont véritablement changé la donne et bouleversé tout le champ des neurosciences. À ce sujet, je vous propose d'écouter l'éclairage du docteur Bruno Suarez, médecin et radiologue. Il enseigne les neurosciences à la faculté de médecine de Paris 11. Il est très inspiré par vos recherches, comme il le détaille au micro de Raphaël Constant.
Depuis quelques années, les neurosciences nous ont amené des résultats qui nous permettent de mieux comprendre comment le corps et le cerveau procèdent pour exprimer les émotions et quelles sont leurs utilités. Il y a plusieurs nouveautés vraiment très intéressantes. Par exemple, on considère à l'heure actuelle qu'une émotion n'est pas un état, mais un processus dynamique, un peu comme une vague, vous savez, comme la vague d'Okusai, l'estampe japonaise. Donc avec un début, un sommet, une acmé si vous voulez, et puis ensuite une phase de résolution où l'émotion va disparaître. Le deuxième point important, c'est que les émotions sont souvent rationnelles, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de primitif et de reptilien, mais plutôt quelque chose qui correspond à un avantage bénéfique pour la personne qui va exprimer son émotion et qui va même l'aider à prendre des décisions intéressantes. Le dernier point qui nous paraît important et qui est une surprise, c'est que le traitement cérébral des émotions est beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on croyait jusqu'à présent. On a affaire à un processus cognitif très sophistiqué et qui fait appel à des régions du cerveau qui nous aident à gérer des choses assez complexes. Et donc, c'est un peu la fin du cerveau reptilien, c'est-à-dire que les émotions sont tout à fait honorables. Hein, je pense que c'est vraiment, pour nous, important d'avoir ces éléments-là en tête. Et à l'heure actuelle, les neurosciences nous font penser que toutes les émotions sont utiles. Toujours pareil, c'est une question de dosage et en bonne quantité. Et qu'il faut dépasser la conception de positif ou négatif pour une émotion, pour dire que toutes les émotions peuvent être utiles et qu'on peut les utiliser en thérapeutique.
Antonio Damasio, toutes les émotions sont utiles. Je sais que Bruno Suarez souhaitait vous poser une question. Justement, est-ce que vous faites la différence entre émotions positives et émotions négatives ?
Oui, on peut faire cette distinction, c'est une distinction très pratique, mais je suis absolument d'accord avec lui que, d'abord, toutes les émotions sont très rationnelle, pour commencer. Si elle n'était
alors
pas...
qu'avant, on les opposait. Hein. Oui, avant, c'était le contraire, la raison et les émotions.
Oui, si les émotions n'étaient pas rationnelles, entre guillemets, si elles n'étaient pas capables de mener les vivants à un bon port, alors elles ne serions jamais sélectées dans l'évolution. Alors, c'était des stratégies très bénéfiques pour les êtres vivants.
Pour la continuation de la vie, d'ailleurs, pour au centre de ce livre, vous parlez de l'homéostasie, c'est-à-dire la force irrépressible du vivant qui tient grâce aux émotions.
L'homéostasie travaille grâce à des réactions chimiques, par exemple, dans notre métabolisme, dans toutes les choses qui deviennent plus tard le système immunologique, le système endocrine. Mais il y a des comportements complexe, et je parle de comportement, je parle de programme d'action, qui on appelle les émotions, et qui font partie de cette grande intention homéostatique. C'est très difficile d'imaginer que des organismes avec même un tout petit peu de complexité pouvaient survivre sans émotions.
Donc les émotions nous servent à nous maintenir en vie et à continuer à poursuivre la vie et le
vivant. Absolument. Et il y a des émotions, par exemple, vous pouvez penser à des émotions comme le soin, la compassion que nous avons pour les autres. Alors, normalement, on parle de ça comme une émotion, une bonne émotion, une émotion positive. Mais aussi, on parle d'une émotion comme la colère, comme une émotion négative. Mais en effet, quand la colère a été développée au point de vue évolutif, elle était très bénéfique. Parce que si vous êtes en colère et vous avez un adversaire, le fait que vous êtes en rage va...
décupler vos forces.
Oui, et va aussi mettre peut-être l'adversaire en la retraite. L'adversaire ne serait peut-être pas capable
d'affronter cette colère.
Voilà.
Alors, de l'utilité des émotions.
Alors, hein. Il y a d'utilité, celles sont, comme il disait, des émotions positives ou négatives sont... au commencement, elles sont toutes positives.
Autour de la question des émotions et de leur utilité, la musique, vous l'avez dit, les musiques, justement, jouent surtout nos registres émotionnels. Je vous propose d'écouter Asaf Avidan sur RFI « Different Pulses ».
My life is like a
FM.
Safa Vidane sur RFI, Different Pulses, Antonio Damasio, ça vous plaît?
Oui.
Autour de la question des émotions, et pourquoi sont-elles à l'origine même de la vie et de l'évolution, enracinées dans les organismes les plus archaïques, thèse développée donc par notre invité, le célèbre neuroscientifique Antonio Damasio, dans son dernier ouvrage « L'ordre étrange des choses », sur lequel vous interroge Antonio, le philosophe des sciences médicales Maël Lemoine, qui était récemment notre invité.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que les émotions peuvent se produire en dehors d'un système nerveux, c'est-à-dire chez un être vivant en général qui n'aurait pas de système nerveux? Parce qu'on parle souvent, on dit souvent qu'il y a des phénomènes cognitifs en dehors du système nerveux, mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a aussi des émotions en dehors du système nerveux?
Votre réponse, Antonio Damasio?
Ma réponse est absolument oui.
Des émotions hors du système nerveux.
Hors du système nerveux. Il y a beaucoup. Il faut penser à quelque chose de très intéressant. Il y a du vivant sur la planète presque 4 milliards d'années. Les premières bactéries, peut-être 3,9 milliards d'années. Il y a des systèmes nerveux seulement à partir de 500 millions d'années. Mmh. Alors, c'est une petite partie de notre vie dans la planète qui est organisée autour, pas exactement autour, mais avec des systèmes nerveux.
Alors, comment la vie s'est-elle développée et a-t-elle continué auparavant?
On peut dire que la vie était très bien, et tout marchait très bien, même sans système nerveux. Et évidemment, dans cette vie, l'homéostasie était centrale, et il y avait beaucoup
la de... La force irrépressible de vivre.
Exactement, la force indomptable de la vie, d'homéostasie. Et il y avait des manifestations émotive, parce que ces manifestations sont des programmes d'action. On ne parle pas d'esprit, on ne parle pas d'expérience mentale, on parle tout simplement d'action, programme d'action.
C'est ça les émotions, et vous faites une énorme différence entre émotion et sentiment.
Absolument, c'est absolument central, et sans faire cette distinction, c'est très difficile à suivre des idées complexes sur l'évolution des esprits, l'évolution du système nerveux, l'évolution des organismes. Émotion sûrement et simplement sur des programmes d'action. Quand on parle des sentiments, on parle de mécanismes de perception. Quand vous êtes, par exemple, quand vous me dites que vous êtes, que vous avez du bien-être, vous vous sentez bien, alors ça veut dire que votre cerveau vous donne dans votre esprit la possibilité de percevoir l'état de la vie dans votre organisme.
Au fond, les sentiments, c'est quoi? C'est la perception, le ressenti des émotions. Une émotion, elle est là, c'est elle qui nous maintient en vie. Oui. Et le sentiment, c'est le ressentir, le percevoir.
C'est ça dans la partie la plus importante. C'est aussi de ressentir l'état du corps, tout simplement. Parce qu'il y a des états du corps qu'on ne peut pas classifier comme émotifs. Par exemple, si vous êtes en train d'avoir de la flu, comment dit-on, la grippe.
La grippe, oui.
La grippe.
Malade.
Et vous disiez, alors je ne me sens pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez à ce moment la perception que votre organisme, l'intérieur de votre organisme, ne marche pas bien au point de vue de l'homéostasie. C'est ça. Et ça vous donne un rapport, une information directe, sans langage.
Sur l'état, parce qu'on rappelle bien que sur l'état de notre corps, puisque les émotions, on dit le cerveau des émotions, mais ça se passe dans un corps, il faut toujours avoir un corps pour avoir des émotions et des sentiments.
Mais attention, cet état n'est pas un état émotionnel, c'est un état de votre corps avant des émotions même.
On va y revenir sur nos émotions et nos sentiments, Antonio Damasio, mais d'abord on va faire appel à notre corps et à notre cerveau émotionnel sur RFI, c'est Morane et Laura Fabian qui nous touchent en plein cœur. Tu es mon outre.
Amour, sœur, jumeau, frère de rien, mais qui es-tu? Tu es mon plus grand mystère, mon seul lien contigu. Tu m'enribanes et m'embryonnes, et tu me gardes à vue. seul à les entendre, les silences, et quand j'entends toi, tu es mon autre, la force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit.
Morane et Laura Fabian sur RFI, tu es mon autre, empathie au programme aujourd'hui, avec le célèbre neuroscientifique Antonio Damasio, autour de la question des émotions et des sentiments à l'origine même de la vie des uns et des autres, en interaction toujours. Je vous propose, Antonio, un petit arrêt sur l'image de l'autre, cette fois-ci c'est le tout autre. Il s'agit d'une tête de mouche peinte par Wolfs et décryptée par le philosophe, biologiste et conteur Jean-Claude Amezen dans la série Correspondance. Écoutez, ça devrait vous plaire.
Un autre qui nous regarde, une vie intérieure insaisissable, des émotions, des intentions. Nous imaginons derrière des traits. Qu'y a-t-il derrière ces traits ? Ici, une composition du peintre Wolfs, un visage humain, une tête d'éléphant. Là, une tête de drosophile, la minuscule mouche du vinaigre qui semble nous examiner. Peur ou empathie? Les neurosciences révèlent certains des mécanismes qui nous permettent de vivre en nous ce que nous percevons des autres. Le mot « empathie » a été forgé il y a un siècle par un psychologue américain pour traduire un mot de la langue allemande « Einfühlung », littéralement « sentir à l'intérieur, ressentir ». Le mot avait été utilisé par un critique d'art pour décrire notre tendance à projeter sur une œuvre les émotions que nous ressentons en la contemplant. Empathie. Nous allons à la rencontre d'un autre, avant même de savoir si nous nous sommes trompés. Ne vaut-il pas mieux animer un instant le monde qui nous entoure, plutôt que de risquer de méconnaître une présence ?
Animer le monde, ressentir, c'est ça, avoir des émotions, Antonio Damasio, oui. et les exprimer devant une œuvre d'art et par l'art aussi.
Oui, ça donne très bien l'idée que quand nous nous sommes confrontés avec un autre visage, visage humain, mais aussi visage humain adulte, visage d'un humain bébé par exemple, ou le visage d'un chien, ou même le visage d'une mouche, de drosophile, il y a des éléments qui nous permet d'avoir une réaction du même groupe. Et ces éléments sont par exemple les yeux, et la position des yeux, la relation, la proportion de la distance des yeux et de la taille de la tête, la relation avec une bouche par exemple. Tout ça nous permet de de reconnaître une familiarité. Mais cette familiarité vient par les émotions. Ce n'est pas qu'on prend le temps d'analyser tout ça d'une forme très, très logique et très systématique. Non, nous répondons avec une émotion parce que quelque chose dans nous, quelque chose vraiment dans nos cerveaux, dans ce cas, reconnaît le fait que ça appartient à une catégorie spéciale d'objets. Et nous avons une émotion qui nous donne ce sens de familiarité.
C'est-à-dire
et nous ressentons cette émotion. Alors ce n'est pas seulement que nous avons cette réaction, c'est que nous pouvons ressentir, nous pouvons percevoir ce qui se passe, ce changement qui est le changement provoqué par l'émotion.
C'est-à-dire que vraiment ce qui est premier et ce qui fait ce que nous sommes, c'est ce que nous ressentons, c'est-à-dire ce sont nos émotions et le fait que nous les ressentons, donc ce sont aussi nos sentiments. Et c'est ça qui nous fait humains.
Oui, c'est ça qui nous fait humains, mais non seulement parce que ça se passe aussi chez des autres créatures vivantes. Il y a beaucoup de
créatures. C'est ça qui nous fait vivants. On pourrait le dire, hein, comme
oui,
ça.
Oui, ça serait mieux. c'est quelque chose qui nous donne cette animation qui vient avec la vie, cette possibilité d'avoir une relation avec un autre, qui peut être un autre de la même espèce et du même groupe, ou un autre complètement différent, comme le cas de l'éléphant ou le cas d'un chien.
Et tout ça, ça se passe à travers notre cerveau, mais dans notre corps.
Ça se passe à travers une relation très particulière entre le cerveau et le corps. Alors, c'est faux. Je dis dans le livre quelque chose que je trouve comme très important et c'est nouveau, c'est de nier la possibilité d'avoir un esprit seulement basé sur le cerveau. Ce n'est pas vrai que le cerveau est le créateur de notre esprit. Notre esprit vient d'une coopération, d'une interaction entre cerveau et corps. Et cette interrelation donne lieu à l'esprit. Alors, vous disiez très bien que ça se passe dans le cerveau et ça se passe aussi dans le corps.
Les deux sont indissolublement liés.
Absolument, c'est impensable d'avoir un cerveau.
Impensable.
C'est impensable d'avoir un cerveau qui pense. Le cerveau, par lui-même.
Il doit être incarné, hein.
Oui, absolument.
Il n'est rien du tout.
Oui. Et retournant à ce que j'avais dit un peu avant, c'est il y a presque trois quarts de la vie dans la planète sont passés très bien sans cerveau.
Cerveau, hein.
Le cerveau est un serveur du corps. Le cerveau a triomphé dans l'évolution parce que le cerveau permettait de coordonner tous les services du système endocrine, du système immunologique, de la circulation et de faire tout ça marcher pour que le corps continue à vivre.
C'est quand même étonnant, Antonio Damasio, parce que vous êtes un neuroscientifique, donc vous étudiez notre cerveau et au fond, dans toutes vos recherches, vous n'avez fait que nous montrer, alors que ce n'était pas la raison qui primait, que ce n'était pas le cerveau qui primait, mais que c'est le corps, les émotions, les sentiments. C'est un peu, c'est pas le monde à l'envers. D'ailleurs, vous avez un gros sourire hein, pour nous annoncer tout ça. L'ordre étrange des choses.
C'est ça, voilà.
Autour de la question des émotions auxquelles vous redonnez leur place prépondérante hein, dans la vie, alors dans nos vies humaines mais pas seulement, dans la vie en général, Antonio Damasio, je propose maintenant un nouvel éclairage vu d'ailleurs, vu du continent africain. C'est celui d'une philosophe et journaliste, Séverine Kodjo-Granvaux. Elle est basée à Douala au Cameroun et elle aussi, elle insiste beaucoup mais d'une autre manière, sur un autre registre, sur le rôle des émotions face à la raison. L'émotion et l'estime de soi pour décoloniser les savoirs et les esprits. C'était lors de la première édition des Ateliers de la pensée à Dakar. On écoute Séverine Kodjo-Granvaux et vous réagirez ensuite.
Décoloniser les savoirs, c'est peut-être aussi redonner de la place aux émotions et en tout cas montrer, c'est ce que j'ai tenté de faire en parlant de l'estime de soi.
Oui.
Et je voulais montrer que l'estime de soi, elle est importante, donc c'est quelque chose qui relève de l'ordre du sentiment, de l'émotion, que c'est important aussi pour la production conceptuelle. Et décoloniser les savoirs, c'est aussi montrer que la raison n'est pas seule, mais qu'elle se construit aussi et qu'elle est accompagné des émotions. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, à un moment donné de l'histoire, des hommes et des femmes revendiquent une pensée indisciplinée, une pensée transgressive? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un sujet ose s'affirmer, mais s'affirmer contre toute une tradition de sa propre discipline? Pour le faire, je crois qu'il faut aussi avoir une certaine estime de soi, savoir que la parole qu'on a portée, qu'on porte avec nous, comme la culture qu'on porte avec nous, sont des choses de valeur et que je peux faire sens.
Antonio Damasio, vous voulez réagir? On a eu envie de vous faire écouter ça parce qu'on s'est dit que vous êtes à la fois un penseur vous-même assez indiscipliné, hein, qui avait pas mal remué dans les brancards ou dans nos idées reçues, et aussi parce que justement la raison n'est pas seule à faire sens, il faut de l'affect, il faut des émotions.
C'est une idée très très importante, je suis absolument d'accord. Et pour moi, de nouveau, c'est impensable que les cultures, toutes ces manifestations extraordinaires que nous avons et qui sont vraiment quelque chose qui donne du particulier à l'humanité, c'est impensable qu'elles pouvaient commencer, elles pouvaient continuer, elles pouvaient s'agrandir sans les émotions, sans les sentiments. C'est vraiment les sentiments qui nous ont donné cette première motivation pour créer, avec notre intelligence, nos connaissances, notre logique, notre bon raisonnement, de créer quelque chose de nouveau, et quelque chose de nouveau que, à la fin, continue l'objectif de l'homéostasie, que c'est de nous faire sentir bien, nous faire sentir pas malade, nous donne l'opportunité de continuer. Et c'est ça vraiment que c'est le grand projet. La grande idée de ce livre, c'est que quand nous avons des cultures, les cultures ont le même but que l'homéostasie.
Elles ont le but de faire de perdurer la vie, de nous rendre heureux d'être vivants et donc vivants.
Il faut que la vie continue, il faut que la vie est possible, et pour avoir ça, il faut réagir d'une forme intelligente avec les situations. Si vous avez de la souffrance, si vous avez de la douleur, il faut inventer des mécanismes, des instruments pour réduire cette douleur. Toute la médecine a commencé par ça. La médecine a commencé quand il y avait les premiers patients qui étaient en douleur et qui voulaient être traités. Ce n'est pas exactement d'une forme tellement simple, mais c'était là la situation.
Pour soulager la douleur, la médecine, donc les sciences, pour soulager la douleur, faciliter la vie, les arts pour la rendre quoi, plus belle, ou plus en accord avec nos sentiments.
Aussi pour mieux comprendre la vie, par exemple la musique, c'est une forme de compréhension des autres, mais aussi un instrument de séduction, un instrument de consolation de l'autre qui est en douleur, et aussi un instrument de réglage du groupe social. Par exemple, s'il y a vous pouvez imaginer en tribu que dans un système tribal doit avoir une guerre avec un autre parce qu'il y a un conflit, alors la musique était une possibilité de organiser cet effort et organiser autour de choses comme par exemple la possibilité d'avoir le grand tambour qui est notre poitrine et d'organiser les sons pour qu'il y ait une marche, pour qu'il y ait une progression vers l'autre. Alors il y a toutes les manifestations culturelles dont vous pouvez penser, vous pouvez trouver une racine qui a à voir avec les sentiments et qui a comme réaction une tentative de corriger ce qui est instable. Quand il y a quelque chose qui n'est pas...
De remettre de l'harmonie finalement, quelque part,
oui. On peut dire ça, on peut dire ça. Mais l'idée qu'il n'y a pas... Et ça, c'est très important aujourd'hui parce que, comme vous savez, il y a des gens, par exemple, qui pensent qu'il y a avec l'intelligence artificielle, qu'il y a des robots qui sont capables de travailler comme des humains parce qu'ils ont beaucoup d'intelligence. Il y a des algorithmes très intelligents qui organisent des comportements des robots. Il y a aussi l'accès à toute la mémoire du monde qui nous vient de la cloud. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que les sentiments ne sont pas du tout importants, que les émotions ne sont pas du tout importantes, et que tout est possible grâce à cette intelligence artificielle et énorme. Alors, ce que je peux dire, c'est que en beaucoup de cas, l'intelligence est vraiment extraordinaire. En quelques cas, elle est même supérieure à l'intelligence humaine au point de vue pratique de l'intelligence. Mais c'est une intelligence dépourvue d'émotions, dépourvue de la possibilité de sentiments. Alors, ça n'est pas humain du tout. Et l'idée qu'il y a des robots qui, avec cette conception, pouvaient être comme les humains, est une idée complètement fausse.
Et comment se fait-il que les humains, qui ont donc des émotions, des sentiments, qui en font quelque chose, vous posez cette question vous-même hein, dans votre livre, Antonio Damasio, pourquoi les humains détruisent-ils toujours ou finissent-ils toujours par anéantir les avancées culturelles qu'ils ont engendrées? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour protéger la vie, pour l'homéostasie, et puis finalement, ça se retourne contre nous, nos émotions, nos sentiments, peut-être.
Oui, parce que nous avons des émotions et des sentiments qui sont très fortes et très positifs. Retournons à la question du négatif et du positif. Mais il y a aussi des émotions et des sentiments qui pouvait être positif à une certaine époque de l'histoire de l'évolution, mais qui, à une autre époque, ne le sont pas.
Plus appropriés.
Exactement. Retournons à la colère, à la rage, à la violence. Nous avons dans nous la possibilité de nous détruire, la possibilité de détruire les autres. C'est quelque chose qui, par exemple, quelqu'un comme Freud a pensé très clairement. Et il a parlé, par exemple, de ce sens dont il parlait comme le thanatos.
Pulsion de mort et pulsion de vie.
Exactement. Et ça, celle-là, il y a, comme nous sommes tous très semblables et très différents aussi, il y a des gens qui sont plus violents, il y a des gens qui sont moins capables de s'organiser autour de la compassion, autour de la coopération, et qui préfèrent le conflit. Et c'est ça, toute cette diversification de l'humain, il faut l'accepter, et il faut penser qu'il y a seulement une possibilité de mener ça au bon port. Et c'est éduquer, c'est de faire que les gens pensent, et pensent intellectuellement, mais pensent aussi avec le support
des émotions. Soient conscients de leurs sentiments, finalement.
Soient conscients de la possibilité de faire les autres souffrir, de faire les autres avoir de la douleur, ou par contre, de faire que les autres seront possible de, il y a une possibilité d'épanouissement, une possibilité de plaisir et de bonheur. Et l'éducation, c'est vraiment le point central.
Éducation musicale hein, sur RFI, si vous le voulez bien, autour de la question des émotions qui sont à l'origine du pire et du meilleur de notre humanité. On écoute le meilleur. Oumu Sangaré, extrait de son dernier album, Mogoya, l'humanité carrément.
Silani mukoya nye ah si samoya
Bamako 98.5 FM Farali
samoya imogolu utekula
Sangaré sur RFI, Mogoya, l'humanité, plein d'émotions, Antonio Damasio.
Oui, très, très très beau.
Autour de la question pourquoi les émotions sont à l'origine même de la vie et du pire, comme du meilleur de notre humanité, je vous propose un dernier éclairage en forme de question sur notre avenir justement, soulevé par un autre éminent neuroscientifique, Denis Le Bihan, fondateur de Neurospin.
J'ai une question qui touche à ce qui est en train de se développer, l'intelligence artificielle, des cerveaux qui seraient des cerveaux complètement informatiques. La part de l'émotion dans le fonctionnement du cerveau est très importante pour les êtres humains. Donc un cerveau artificiel, purement informatique, si on peut dire, est-ce qu'il faudrait qu'il ait aussi des émotions pour fonctionner correctement? Ou est-ce qu'on peut envisager un fonctionnement sans émotion d'un cerveau artificiel? Est-ce que ce serait très différent ou pas d'un cerveau humain?
Antonio Damasio, vous avez déjà un peu répondu à cette question sur l'intelligence artificielle, mais ce serait possible un cerveau artificiel sans aucune émotion, ça marcherait aussi?
Bon, c'est absolument possible de construire un cerveau artificiel sans émotion qui marcherait très bien pour certaines tâches, mais qui ne marcherait pas du tout bien pour des autres.
Et est-ce qu'on pourrait copier dans un cerveau artificiel, copier les émotions humaines, animales, enfin les émotions du vivant,
hein? On peut faire quelque chose qui j'aime d'appeler des marionnettes. Si vous avez un cerveau artificiel, si vous avez un robot avec un cerveau artificiel, c'est possible de programmer des réactions émotives, mais sont des réactions comme les réactions des marionnettes. Il n'y a pas aucune raison pour avoir ces réactions. Parce que comme il n'y a pas du vivant, comme il n'y a pas de la vie, comme il n'y a pas un système antérieur qui est vulnérable et capable d'être bien ou mal, malade ou avec du bien-être, c'est une question absurde. On n'a pas aucun besoin d'émotion, sauf pour avoir un système artificiel communiqué avec un autre système. Ça, on peut, mais ça, de nouveau, une question, en anglais, c'est une question de puppetry, c'est une question de fantoche, de marionnette. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir avec la vie. La vie est autre chose, c'est une chose très compliquée, et c'est une chose que, parce qu'elle peut aller dans la bonne direction ou la mauvaise direction, nous donne cette valence entre bien-être et souffrance. Et en système artificiel, et en système où nous pouvons simuler des choses, comme on peut la vie, les comportements, mais on ne peut pas dupliquer ces choses. C'est quelque chose de très important, les gens. Et il faut, parce que l'idée d'une intelligence artificielle très très puissante est tellement attirante que c'est dangereux quand les gens pensent que, par exemple, ils vont décharger leur esprit dans un ordinateur. C'est une idée absurde, je dirais même plus qu'absurde, c'est stupide, parce que ce n'est pas possible de le faire, au moins que, comme je dis dans l'étrange ordre des choses, au moins qu'on va décharger aussi notre corps.
Parce que nous... C'est ça, parce qu'il faut les deux, hein, pour être en vie, il faut un corps et un cerveau, il faut ressentir.
Absolument. Absolument. Alors, c'est absolument absurde.
Antonio Damasio, dans ce livre, vous reliez alors non seulement évidemment notre cerveau et notre corps, tout le vivant dans cette longue chaîne d'émotions qui se développe petit à petit en sentiments, mais vous reliez aussi des sciences différentes, c'est-à-dire les neurosciences, les sciences de la vie, les sciences humaines. Vous n'essayez pas de nous réduire justement ni à nos émotions, ni à notre raison. Vous essayez d'élargir. C'est un peu
absolument
ça le but du jeu.
Mon projet, c'est un projet de lier les choses. Ce n'est pas un projet du tout de réduire. Je n'ai aucune intention de réduire cette grande épopée de la culture humaine, ou des cultures humaines, dans des petites choses biologiques. Non, mais par contre, ce que je veux faire, c'est de lier la vie, de lier toutes ces intentions du vivant, même avant d'avoir un système nerveux, même avant d'avoir un esprit et une pensée, de le lier avec ses forces d'homéostasie et finalement de le lier avec la pensée non seulement humaine, mais humaine aussi, et les cultures. Et de donner l'idée, je pense que très très importante, que tout est lié, que quand vous, par exemple, aviez un sentiment, par exemple, de croyance, quand vous avez un sentiment de compassion avec un autre, quand vous avez un sentiment d'amitié, toutes ces choses-là ont commencé parce que la vie devait être bien menée par l'homéostasie pour continuer. Et alors, je parle des raisons, je parle des motivations et je parle du système d'arbitre. Je ne veux pas du tout dire que ces motivations explique tout, par exemple, dans les sentiments religieux, ou les arts, ou la construction de la gouvernance.
Non, mais vous dites que c'est ce qui nous anime. C'est ce qui est à la base.
Et que c'est la base. C'est le commencement, l'arbitrage et la négociation. Et essayer de comprendre les cultures humaines sans parler de vie, sans parler d'homéostasie, sans parler des sentiments, ça, c'est un projet qui ne va pas marcher.
Est-ce que vous-même, Antonio Damasio, on va en terminer là-dessus, est-ce que vous-même, en ayant tellement travaillé sur les émotions et les sentiments, vous les exprimez mieux, vous les ressentez mieux vous-même, vous savez mieux où vous en êtes dans votre paysage intérieur
Peut-être, oui, je pense que quelquefois je pense que oui, mais pas nécessairement. disons que ce n'est pas un projet
de
thérapie ou de perfection personnelle.
Merci infiniment, Antonio Damasio, d'être venu en direct partager avec nous toutes ces émotions, tous ces sentiments aussi. Oui, je rappelle que votre dernier essai, donc L'ordre étrange des choses, comme tous vos précédents essais, sont publiés chez Odile Jacob. Merci à vous.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster, amis auditeurs et internautes, sur le site de RFI, avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Portez-vous bien, surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Dans quelques instants, ce sera l'heure d'un nouveau journal sur RFI.
RFI, les voix du monde. RFI à Paris,